L'heure philo. L'heure philo sur France Inter jusqu'à 21h. Karine Dehaie est à la réalisation. Chantal Le Montagnier à la préparation. Djoubaka choisit les disques et Florian Dorimini est aux manettes.
France Inter. L'heure philo. Patricia Martin.
Jacques Derrida, c'était en 1999.
Chaque fois que des philosophes, en tout cas dans la modernité, ont essayé de définir l'animal, ils se sont référés à ce qui serait propre à l'homme. Alors l'animal n'a pas tout ce qui est propre à l'homme, c'est-à-dire le langage, comme réponse, le rire, le deuil, la mort. Heidegger dit que l'animal ne meurt pas. L'animal crève, il finit de vivre, mais il n'a pas de rapport à sa propre mort. Il ne meurt pas, l'animal ne meurt pas. Alors toutes ces définitions du propre, j'essaie de les mettre en question et de marquer qu'elles ne fonctionnent pas, ni du côté de l'homme, ni du côté de l'animal. La question n'est pas de savoir si l'animal parle, s'il a la parole ou non, s'il a la raison ou non, s'il a telle ou telle chose qui est le propre de l'homme, mais de savoir s'il souffre. Et là, la réponse est évidente, l'animal souffre.
C'était donc Jacques Derrida, Corinne Pelluchon et ce soir notre invitée, les philosophes, ça ne vous étonnera pas, professeure à l'université Gustave Eiffel. Elle publie un manifeste animaliste, désormais édité en poche chez Rivage, enrichi d'une postface inédite. Bonsoir Corinne Pelluchon.
Bonsoir Patricia.
Vous avez entendu avec attention et plaisir, j'ai vu Jacques Derrida. L'animal souffre même le dimanche et l'animal mérite notre compassion.
Oui, l'animal souffre. Il a aussi du plaisir, mais effectivement, il a cette vulnérabilité que Derrida considérait comme un impouvoir au cœur du pouvoir, qu'on a un partage avec les animaux. Et à partir de là, reprenant la fameuse formule de Bentham, la question n'est pas de savoir s'ils peuvent penser, mais s'ils peuvent souffrir, alors ils entrent dans l'éthique. Ils ont droit non seulement à notre compassion, mais peut-être à notre considération morale, enfin assurément à notre considération morale, et aussi nous avons peut-être un rapport de justice à leur égard, c'est-à-dire qu'il faut peut-être assigner des limites à notre bon droit d'en user et d'en abuser comme bon nous semble.
Pour vous, la politisation de la cause animale est nécessaire. Vous écrivez « Les animaux sont des sujets politiques ». Non des citoyens.
Oui, parce que les citoyens, la citoyenneté suppose que j'ai conscience d'appartenir à une communauté politique. Les animaux ont conscience d'appartenir à un foyer, mais n'ont pas cette historicité. Néanmoins, ce sont des sujets politiques parce que avons une communauté, nous vivons dans une communauté mixte. Hein. Nous partageons la terre, les écosystèmes, et il y a une zoopolitique, hein, c'est un terme qui a été inventé par une géographe pour parler de cette communauté de faits mixte, d'humains et de non-humains, hein, dans les villes et partout. Et puis, Kimlicka Donaldson, il y a quelques années, moi-même, avons donné un sens, non pas factuel, mais politique à cette notion pour penser une théorie globale qui tiendrait compte, bien sûr, des intérêts des humains, mais également des intérêts des animaux, lesquels, dans nos sociétés, ne sont considérés que comme des moyens au service de nos fins. Et voilà, quand ils nous plaisent, on les garde, mais on ne tient pas compte dans la manière dont nous conduisons les politiques, dont nous, parfois, construisons les habitats. Nous ne tenons pas compte de leur droit à vivre et à utiliser également les ressources.
Et il y a eu une candidate, Hélène Thuy, du Parti Animaliste, qui finalement ne s'est pas présentée parce qu'elle n'a pas eu les signatures nécessaires, mais il y a quand même une sorte de constitution politique de ce point de vue-là.
Je crois que la question animale, la cause animale, est arrivée à une sorte de maturité. Je l'avais écrit en 2017, mais peut-être que c'était pas encore là, ou du moins c'était là, mais pas encore manifeste. C'est souvent cela, les mouvements de fond, les mouvements profonds. Le parti animaliste étant une expression de cela, mais je crois que la question animale, enfin j'en suis même sûre, est une question qui appartient à tous les partis parce qu'elle est universelle. Quels que soient les choix de consommation que l'on a, et même ses positions plus ou moins radicales, l'usage, le rapport aux animaux en dit long sur ce que nous sommes. Et là, je reviens à Derrida, qui disait que justement, il y a un appel de l'animal et que, bien sûr, faut penser le statut moral, voire juridique des animaux, mais il faut aussi faire porter l'accent sur ce que disent de nous nos usages des autres vivants, sur le quiz du qui suis-je. Qui suis-je moi pour finalement traiter des êtres dont que je reconnais comme étant sensibles, pour du moins les traiter eh bien, sans considération.
Alors nous portons, Corinne Pelluchon, certes une responsabilité vis-à-vis des animaux, on verra quelles en sont les modalités. Il faut passer, écrivez-vous aussi, de l'éthique à la politique et dépasser les clivages. Mais que répondez-vous à ceux qui pourraient vous dire aujourd'hui que tout cela ne pèse pas lourd face aux difficultés rencontrées dans notre pays, face aux drames que vit le monde, pour le dire autrement? Qu'est-ce que pèse la cause animale face à la difficulté, enfin au pouvoir d'achat, disons, à la difficulté de fin de mois, j'allais dire, mais au pouvoir d'achat, et à la guerre en Ukraine? Qu'est-ce que vous répondez à ce genre d'argument?
Mais c'est une question très importante, et je réponds que quand on a compris la dimension stratégique et globale de la cause animale, le fait que, bien sûr, elle est importante parce que les animaux souffrent, mais qu'aussi elle est un miroir sur ce que nous sommes devenus au fil des siècles, sur la manière dont nous exploitons les autres vivants, les autres humains et la Terre de manière illimitée, pour finalement le profit de quelques-uns, et bien parce que la cause animale est aussi le miroir de dysfonctionnement dans nos modes de production, qu'elle est aussi le miroir d'une violence extrême imposée à des êtres, comme je disais tout à l'heure, que personne ne songe à comparer à des machines, parce qu'elle est l'expression de ce que j'appelle un schéma de la domination qui transforme tout le travail, le rapport à autrui, à la nature, aux autres vivants, une sorte de guerre. Alors, elle n'est pas isolée, elle n'est pas un îlot éthique. Bien sûr, actuellement, la guerre en Ukraine, la pandémie il n'y a pas longtemps et encore, toutes ces choses-là, évidemment, mobilisent les politiques et le président de la République, évidemment. Mais je crois que vraiment cette question et la révolution anthropologique, la révolution dans la manière de nous penser et de penser ce qui compte dans notre existence, cela fait aussi de la cause animale le terrain, le chapitre fondamental d'une reconstruction morale, sociale et politique à venir, j'espère. Donc du coup, on ne peut pas isoler au niveau philosophique toutes ces questions. Et moi, j'appelle schéma de la domination, une domination que Adorno et Horkheimer, les pères fondateurs de l'école de Francfort, disaient triple. Domination à la fois des autres, de la nature à l'extérieur, de nous, écosystème, nature, et de la nature, de notre nature. Cette répression de la vulnérabilité, de la communauté de vulnérabilité que nous avons avec les autres vivants, l'oubli peut-être de notre finitude, explique cette hubris, cette toute-puissante, cette domination, cette tendance à dominer, écraser les autres, tout contrôler. Je crois que ça transforme tout en guerre, et c'est peut-être ce que nous vivons aujourd'hui, évidemment, avec des manifestations, encore une fois, qui mobilisent dans l'urgence les êtres, les pouvoirs publics, etc.
Mais est-ce que c'est pas plus grave, au fond, aujourd'hui, que de continuer à maltraiter des animaux, alors que nous savons pertinemment, je veux dire, à un moment donné dans l'histoire, je ne sais pas quand d'ailleurs on peut le situer, mais disons, en tout cas avant la révolution industrielle, d'abord on a utilisé encore plus les animaux, mais même avant, quand vous avez la théorie de l'homme-machine, de l'animal-machine par exemple, bon, on peut dire qu'à la limite il y avait une ignorance sur certains points ça ne peut plus être un argument.
Vous avez parfaitement raison. Néanmoins, nos ancêtres n'étaient pas si ignorants que cela. Mmh. Et il y a quand même dans la Bible, on fait souvent de la Bible une sorte de manière de justifier la domination des animaux. C'est pas vrai. Hein. L'humain est le jardinier de Dieu. Et c'est justement dans le rapport aux autres créatures et à la nature qu'on voit ce que justement il peut faire. Et puis, bon, il y a quand même François d'Assise. Il y a toujours eu des voies différentes. Montaigne, et puis Plutarque, hein, tout le végétarisme antique. Alors, voilà. Donc, mais c'est vrai, ce que vous dites, c'est qu'il y a non seulement des connaissances éthologiques sur la complexité de la vie psychique des animaux, on sait qu'ils ont un rapport au rite, au symbolique, donc ils ne sont pas privés de tout ce qui serait considéré comme le propre de l'homme et qui ne l'est pas vraiment. Hein. Mais même s'il y a des différences majeures, évidemment, entre les animaux et les humains, mais ils ne sont pas privés de cela. Et voilà, donc je pense qu'aujourd'hui, il y a aussi une sensibilité nouvelle. Je crois que, en raison de notre poids démographique et de l'industrialisation qui implique une intensification de l'élevage intensif et donc un abus constant des animaux utilisés pour n'importe quoi, y compris des bonbons, hein, et bien la fourrure, etc., à cause de ce système de production, et bien évidemment, il y a ces élevages intensifs, il y a ces images absolument abominables qui nous arrivent en pleine figure, et que quand on prend conscience de cela, et bien évidemment, c'est un grand vertige. Comment faire? Comment survivre à ces images-là? Où on fuit, où on accepte de le voir, on traverse l'autre côté du miroir et on change un peu sa vie, ou voire beaucoup.
Manifeste alimaniste, politiser la cause animale dans une nouvelle édition. C'est donc le titre du livre que vous publiez, Corinne Peluchon. Vous êtes notre invitée ce soir jusqu'à 21h. 5 garçons et une fille, c'est le groupe La Femme sur France Inter. Le 21 mai prochain, ils seront sur scène au Zénith à Paris. Mais avant cela, à Angers, à Nancy et aussi à Lyon. Maurice Merleau-Ponty sur France Inter, auteur notamment de La structure du comportement, livre dans lequel il s'est intéressé à la théorie des réflexes conditionnés. Le voici au cours d'une causerie. C'était en 1948.
Il est bien connu que la pensée classique ne fait pas grand cas de l'animal, de l'enfant, du primitif, ni du fou. Quand l'animal n'était pas une machine, il était, dans la pensée classique, une ébauche d'homme. L'animal est le centre d'une sorte de mise en forme du monde. Il a un comportement. Dans les tâtonnements d'une conduite peu sûre et peu capable, à vrai dire, d'acquisitions accumulées, il révèle en pleine lumière l'effort d'une existence jetée dans un monde dont elle n'a pas la clé. C'est sans doute parce qu'elle nous rappelle ainsi nos échecs et nos limites que la vie animale joue un rôle immense dans les mythes des primitifs comme dans les rêveries de notre vie cachée. L'animal nous donne cette surprise et ce choc, lui qui n'entre pas dans le monde humain et se contente de le subir, de nous montrer cependant des emblèmes de notre vie qui, ramenés ainsi au cœur de la nature originelle, perd du coup son évidence et sa suffisance.
Qu'il parle bien, hein, ce Merleau-Ponty. Un rôle sans limite, Corinne Pelluchon, pour l'animal, finalement. Un rôle peut-être insoupçonné, mais dont il faut prendre conscience.
Ah oui, et que les phénoménologues français ont très bien souligné, en particulier Merleau-Ponty, qui ne scinde pas l'existence et la vie. Il disait dans Structure du comportement, l'animal est une autre existence. Le mot existence est très important. Plein existentialisme, on réduisait, enfin on limitait l'existence au projet, à la seule liberté humaine. Et puis il y a cette idée que l'animal, jeté dans un monde dont il n'a pas la clé, a une inquiétude, a aussi comme nous une certaine précarité. Ça tombe pas tout cuit, quoi. Il n'y a pas cette... C'était très anti-Heideggerien, au sens où Heidegger disait, ben voilà, l'animal, il est dans une sorte de Benjaminheit, il est dans une hébétude, hein, il est enfermé dans un tuyau de l'instinct. Non, c'est pas vrai. Hein. Il n'est pas arrivé à l'instinct, il a un comportement, il a une intentionnalité. C'est une autre manière de mettre en forme le monde. On a ça aussi dans les écrits des années 30 de Husserl. Donc il y a vraiment l'idée des animaux configurateurs de monde qui ne sont pas des ébauches d'hommes ou des hommes en moins, mais d'autres. Donc c'est une figure de l'altérité. C'est finalement une réflexion sur l'altérité des animaux, leur singularité, le fait qu'on n'en fait pas le tour et aussi ce qui échappe. Parce que c'est vrai qu'on peut comprendre les animaux qu'à partir de nous-mêmes. On ne sait pas ce que c'est que d'avoir une patte cassée ou une aile cassée. Mais on peut... Donc il y a une altérité, on peut les rejoindre, mais il reste quand même cette altérité, ce mystère. Et ça, la notion d'altérité, qui est la grande notion finalement du XXe siècle, qui avait été portée par Lévinas, lequel n'a pas accordé aux animaux une différence, une positivité de la différence, puisque l'altérité, c'est pas seulement un autre stylo comme voilà qu'on peut reproduire à l'identique, c'est vraiment la différence qui est positive, qui fait tout, hein, et qui est irréductible. Mais là, Merleau-Ponty souligne tout ça et ouvre là une réflexion très intéressante qui invite aussi à ne pas installer une sorte de hiérarchie entre les animaux en mettant en haut ceux qui seraient plus comme nous et en bas bah, les insectes qui seraient vraiment très loin de nous, mais que finalement on ne comprend pas. Évidemment, il est plus difficile d'avoir une relation affective avec un insecte qu'avec un chien, je le concède. Mais ça ne veut pas dire que les insectes eh bien, n'ont pas droit à, finalement, d'exister selon leurs normes propres.
Et puis, si on devait n'accorder un statut qu'à ceux qu'on connaît, finalement, il y aurait quoi ? Les chats, les chiens, peut-être quelques autres animaux, mais très peu. Pourquoi maltraiter autant, par exemple, les cochons ? Si nous vivions avec des cochons, et il y a des gens à qui ça arrive, à la campagne, il y a des gens qui ont des cochons presque comme animaux de compagnie. C'est un animal absolument merveilleux et très intelligent.
Bien sûr, mais il y a vraiment, c'est sûr que la manière dont on a utilisé les animaux domestiques, on a fait venir à la maison, qu'on a réduit à une fonction.
Et auquel on n'accorde pas toujours d'ailleurs le minimum vital qu'ils devraient avoir.
Absolument, on ne leur accorde pas les conditions leur permettant de s'épanouir d'exprimer leurs besoins de base.
Et qu'après on abandonne, après le Covid, il y a combien de gens pendant le Covid, qui ont pris un animal de compagnie, combien ont été abandonnés par la suite parce que...
Parce qu'ils s'en servent comme des objets jetables. Ouais, c'est ça. Mais il y a quand même, c'est vrai que la question animale, les rapports aux animaux en dit long sur notre capacité à accueillir les autres. les autres qu'humains, et ces autres si différents, dont on ne fait pas le tour non plus. Même ceux qui sont si proches de nous, comme les chats, vous rappelez la phrase de Montaigne, je ne sais pas si je joue avec ma chatte ou si elle se joue de moi. Donc je crois que quiconque a un chat, moi je suis une admiratrice des chats inconditionnelle, et bon, on sait bien à quel point ils sont très proches et très mystérieux. Mais voilà, donc le rapport aux animaux, c'est vraiment aussi quelque chose qui est très important pour nous réconcilier aussi avec une partie de nous-mêmes qui est un peu maltraitée par notre vie moderne, le sentir, le pathique, hein, ce qu'Erwin Strauss ou Marie Dinet appelaient le pathique, le sentir dans sa dimension infra-langagière. Et en même temps, c'est une école de l'altérité. Comment arriver à procurer à un animal très différent de nous, eh bien, une vie qui évidemment nous conviennent quand on l'a amené à la maison, mais qui lui conviennent.
Mais pour en revenir, Corinne Pelluchon, à la pitié dont nous avons un tout petit peu parlé tout à l'heure, en même temps que la justice et la compassion, pourquoi est-ce qu'on, au fond, sans même peut-être nous en rendre compte, mais vous montrez bien dans votre manifeste à quel point on s'ampute, au fond, d'une part de nous-mêmes, en étouffant cette voix-là, en ne regardant pas ce qu'on devrait éprouver devant tout être sensible et souffrant.
Qui souffre inutilement, comme dit Jean-Jacques Rousseau. Oui, la pitié n'a pas bonne presse, mais si on la considère comme Jean-Jacques Rousseau dans cette fameuse note du discours sur l'origine et les fondements de l'inégalité parmi les hommes, reprise par Claude Lévi-Strauss, si on la considère, la pitié, comme une identification non réflexive et prélogique à tout être sentant ou sensible qui souffre, eh bien alors, elle n'est pas la morale, elle n'est pas la justice. Mais que serait la morale, que serait la justice sans cette capacité à se transporter un petit peu auprès de ceux qui, comme nous, souffrent, comme nous, sont vulnérables et auxquels on distribue avec tant de parcimonie, justement, notre considération. Donc je crois que, justement, pour reprendre Derrida, le magnifique Derrida, il parlait d'une guerre de la place de la pitié dans la justice. C'est très fort. Ça veut dire que le rapport aux animaux est une guerre contre eux, mais est une guerre aussi contre nous. C'est-à-dire contre cette communauté de vulnérabilité que nous avons avec eux. Ça ne veut pas dire, encore une fois, que nous sommes comme les animaux. Ça ne veut pas dire qu'une mouche aura la même importance morale à mes yeux que ma sœur. J'ai jamais dit ça.
Quoique, lisez les lignes de Marguerite Duras sur la mort d'une mouche.
Ah bah bien sûr, c'est très important, mais bien sûr, c'est un être qui veut vivre. Pour lui, sa vie est aussi importante que la nôtre l'est pour nous. Mais dans la vie, nous faisons des choix.
Bien sûr.
Dans la vie, nous accordons une importance morale à tel et à tel autre. Et il y a toujours un chauvinisme, humain, hein, mais aussi la grue, comme disait Platon, si elle devait choisir et partager entre les êtres, elle préférerait les grues et les humains, elle ne s'intéresserait pas à eux. Donc, mais c'est très important de voir que, finalement, dans nos rapports aux animaux, on s'ampute d'une part de nous-mêmes, et c'est pour ça que le rapport aux animaux, encore une fois, est important pour eux, mais il a aussi une dimension stratégique. La question animale a une dimension stratégique, non seulement parce que, comme le disait Derrida, elle est aussi ce à partir de quoi on va distribuer les cartes mentales, on va penser les frontières morales en disant qu'il y a ceux qui me dira « tu ne tueras point l'humain » et ceux dont la mort provoquée ne serait presque rien. Eh bien ça saute à partir du moment où on considère que prendre la vie d'un animal qui veut vivre, ça ne va pas de soi quand on peut ne pas le tuer, quand on peut se nourrir autrement. Donc la question animale a comme enjeu, enfin en tout cas elle est un terrain de la déconstruction des cartes mentales, des catégories morales et juridiques qui ont servi à instituer le sujet, un sujet dans un humanisme violent. Un humanisme que moi je ne condamne pas totalement, mais que j'espère rénover à l'occasion de la considération envers ces autres vivants.
Peter Singer, je sais que vous le connaissez, un philosophe utilitariste australien. Il est titulaire de la chaire d'éthique de l'université de Princeton. C'était en 2013 dans La Tête au Carré, ici sur France Inter.
La souffrance d'un être qui puisse ressentir la douleur est mauvaise. Et si l'on peut
prévenir ou éviter cette souffrance, eh bien, il faut le faire. Peu importe qu'il s'agisse d'un être humain ou d'un animal non humain, la souffrance reste la souffrance, la douleur reste la douleur. Peut-être qu'y a-t-il des différences dans l'intensité de la souffrance, peut-être qu'il y a une différence de souffrance selon les espèces, mais il y a l'éthique unique qui nous dit, du point de vue utilitariste, que certains jugent un peu trop étroite, qui disent donc le plaisir c'est bon, la douleur c'est intrinsèquement mauvais. Ce que nous devrions faire, c'est réduire la quantité de douleur, augmenter la quantité de plaisir, et ce n'est pas une éthique distincte pour les humains et une autre éthique pour les animaux, c'est une approche éthique.
Là, vous vous rejoignez complètement.
Oui, alors en même temps, bon, Peter Singer évidemment a été très important, Libération animale, donc publié en 75, c'est un best-seller et c'est un livre bouleversant qui m'a bouleversé, qui a toujours bouleversé les étudiants auxquels je l'ai lu. Bon. Néanmoins, je crois que nous ne sommes plus à ce stade. Bien sûr, l'éthique pathocentrée, hein, fondée sur la sentience, qui n'est pas seulement la sensibilité au milieu.
Ce que c'est que la sentience,
ben, la sentience, il y a un glossaire dans le manifeste, c'était pour ça, pour pas qu'il y ait de contresens. La sentience, qui vient de mots sentience éprouvée, hein, c'est le fait, pas seulement d'avoir une sensibilité au milieu, mais d'éprouver la première personne. Ce plaisir, cette souffrance, d'avoir des préférences individuelles. Donc il y a une agentivité. C'est pas seulement un patient moral passif, mais l'animal sait, il est compétent, il sait ce qu'il faut faire avec ses petits, etc. Il a, c'est un sujet, mais aussi il a des préférences individuelles que sa biographie a conformées. C'est un jeu, c'est un sujet, mais c'est pas une conscience représentative. Il se voit pas vivre, mais c'est une conscience. Et il est individué. C'est pas une chose, et c'est pas, il a cet être individué. Donc il y a aussi ce rapport tragique à l'existence, évidemment différemment de nous, mais quand même. Donc ça, c'est la sentience, c'est évidemment, a fait que elle fait qu'un être a droit non seulement à notre considération morale, mais à notre justice. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire n'importe quoi avec et on n'a pas seulement des devoirs indirects envers lui. Mais je crois que Peter Singer, c'était important. C'était aussi, dans son livre, il a popularisé le mot antispéciste, cette critique, cette dénonciation d'un préjugé, d'une manière finalement de considérer que l'appartenance à l'espèce, en l'occurrence humaine, eh bien, serait un critère nécessaire pour avoir droit à la considération morale, et quand on serait d'une autre espèce, eh bien, on pourrait être traité n'importe comment. Donc ça, c'était pour pointer des erreurs de jugement. Hein. Ce n'est pas une idéologie, l'antispécisme. C'était pour pointer nos contradictions et nos préjugés, finalement. Mais je crois qu'aujourd'hui, ce qui a manqué à ce très grand penseur, hein, parce que quand même, c'est, eh bien, moi je me suis dit, en 2017, mais avant, après 50 ans de beaux livres, eh bien, qui s'adressent surtout à l'argumentation, moins aux émotions, moins à ce qui nous permet de changer nos styles de vie, ce qui nous met en mouvement, et après 50 ans de créativité, de décentrement de l'éthique, il ne s'est rien passé au niveau politique. Les animaux, la question animale est restée à la périphérie du politique. Comment faire entrer la question animale dans la politique? Construire une théorie globale qui prenne en compte, encore une fois, les intérêts des humains et des animaux et qui, au niveau concret, permette qu'on arrive à des compromis, à des accords, sur fond de désaccords dans une démocratie, puisqu'il y aura évidemment de la conflictualité, des différences d'opinion et d'intérêt, mais qu'on arrive quand même à des avancées substantielles au niveau de l'alimentation, de la mode, de la production, pour que question animale, et en différenciant les sujets, avance et qu'on arrive à des résultats et pas seulement à des beaux livres ou à des combats qui dénoncent le mal, mais qui ne proposent pas un autre modèle de développement. Puisqu'en plus, moi, j'arrivais avec cette conscience d'un lien, pas facile, mais néanmoins existant, entre la promotion d'un modèle de développement et d'une habitation de la Terre et d'une cohabitation avec les autres vivants qui soit plus juste et plus soutenable, et la défense des animaux pris individuellement. Donc avec une sorte de réconciliation, plutôt de mariage, puisqu'il y a toujours une tension dans un mariage, entre la prise en compte de la transition écologique et la prise en compte des intérêts, pas seulement des espèces, mais des individus, des animaux, comme êtres individués.
Et des propositions concrètes, hein, vous en faites dans ce manifeste, j'espère, en tout cas qu'on aura le temps d'en parler avant la fin de l'émission. Mais pourquoi un manifeste et pas un plaidoyer ?
Ah, très intéressant. C'est très bien de me poser cette question parce que ça m'arrive rarement et c'est vraiment un genre, le manifeste. J'avais relu Victor Considérant, évidemment Marx, Joachim du Bellay. Un manifeste, ça veut dire, c'est un genre littéraire, hein, où assez court, un texte assez court, incisif, où on prend la mesure de quelque chose qui existe déjà. C'est pas une chose qu'on invente. On veut le rendre manifeste, on veut le rendre public, mais évidemment, on va le rendre plus cohérent, le structurer. Moi, je pensais que la question animale était déjà là, mais qu'il fallait aussi lui donner une structuration et donner aux militants, aux partis animalistes qui allaient naître, mais qui existaient dans d'autres pays, aussi aux gens qui exploitent les animaux, aux représentants politiques de tous les bords, je voulais leur donner des clés, 12 glossaires de 21 termes, parce que souvent il y a des confusions colportées parfois même par certains de mes collègues, mais sur les termes, mais aussi je voulais donner une stratégie, et moi ma stratégie, qui me l'a donnée, il y a deux grandes figures qui m'ont permis de politiser la cause animale pour arriver à des accords, sur fond de désaccords, à des résultats concrets au moyen, dans le moyen terme, sans renoncer à une vision très ambitieuse qui est la mienne, qui est abolitionniste, mais en attendant quand même avancer, dépasser les clivages entre ceux qui sont pour, ceux qui sont contre, entre les véganes et les éleveurs, entre les abolitionnistes qui veulent la fin de l'exploitation animale et ceux qui veulent seulement améliorer. Je pense que ceux qui m'ont inspiré, c'est un Badinter, quand dans son fameux, avant d'écrire ce livre, j'avais écouté ce magnifique discours au Parlement.
Quand l'abolition,
L'abolition de la peine de mort. Je confonds pas abolition de la peine de mort, évidemment, et question animale, mais il y avait cette réflexion, cette générosité qu'il avait de prendre un sujet. La justice, c'est pas la somme des intérêts, c'est pas le résultat d'un sondage. Non, c'est difficile, faut du courage, faut imposer parfois les choses, mais en reprenant ce qu'il y a de fort dans la tradition, ce qu'il y a le mieux, la justice. Et Lincoln,
alors
maître,
ça, justement, est-ce que c'est important pour vous, Corinne Peluchon, d'établir un parallèle entre la cause animale et l'abolition de l'esclavage?
Il n'y a pas, pour moi, d'assimilation.
Non.
Ce que j'ai, non, c'est très différent. En plus, les petits-enfants d'esclaves, ou petits-petits-enfants, sont là pour témoigner, pour dire. Les animaux, de génération en génération, sont massacrés. Ils n'ont pas d'ordinateur, pas de livre pour rappeler la souffrance de leurs ancêtres, c'est très différent. Il y a une asymétrie radicale et définitive entre les animaux et les humains. C'est pourquoi la politisation de la cause animale suppose que des humains, comme moi et d'autres, s'adressent à d'autres humains qui exploitent les animaux pour les convaincre et essaient aussi de convaincre nos représentants. Mais là, pourquoi Lincoln? Parce que Lincoln, c'était un homme qui, au départ, n'était pas exempt de préjugés. Mais il a évolué et surtout, il a pensé, il a compris que la cause de l'esclavage, l'abolition de l'esclavage était une cause universelle, qu'elle était une cause de l'humanité, que l'esclavage était un mal moral. Et aussi, il avait une tension, il fallait maintenir l'unité, donc des États-Unis, alors que il y avait une scission, puisque les États du Sud étaient esclavagistes. Maintenir l'unité du pays et en même temps lutter contre cette institution qu'était l'esclavage. Donc, comment faire? Eh bien, moi, je trouvais que c'était très intéressant parce que, moi, ma grande question, c'était, un, faire avancer la cause animale et puis, concrètement, améliorer de manière substantielle la cause animale et faire avancer cette cause dont je pense qu'un jour, elle arrivera jusqu'à l'abolitionnisme, mais aussi en tenant compte du pluralisme politique, du fait qu'il y a une diversité qui est précieuse. La démocratie, c'est sacré, je le dis quelques jours avant les élections présidentielles. Moi, j'appelle à voter Emmanuel Macron sans hésitation et même en l'appelant à s'emparer de ce que j'appelle les lumières à l'âge du vivant qui feront progresser sa cause et qui le feront avancer. Il en est capable. Donc, voilà. Et ce n'est pas un parti d'extrême droite qui portera cette cause généreuse et passionnée et passionnante qui doit nous rassembler. Il faut se mettre aujourd'hui sur cette route. Moi, en 2017, alors je m'étais plantée parce qu'à l'époque, il y avait eu tout un tas d'histoires, Fillon, etc., Le Pen, bon. Donc, la cause animale avait été éclipsée, il n'y avait peut-être pas cette maturité. Aujourd'hui, on peut saluer Yannick Jadot, on peut saluer Jean-Luc Mélenchon, qui ont porté des questions, qui se sont emparés avec force de ces sujets. Mais bon, Emmanuel Macron, j'espère, s'en emparera. Barbara Pompili s'en est déjà emparée, puisque sa loi est quand même très bien.
Alors, il faut peut-être rappeler.
Eh ben, c'est quand même très bien. Alors, c'est jamais parfait. Je suis animaliste. Je suis jamais tout à fait contente. Mais bravo. Fin de la fourrure. Fin des animaux en cirque des animaux sauvages dans les cirques. Alors, programmé. Bon, c'est pas parfait. Il y a encore Jumbo, l'hippopotame
qui, et l'éléphant.
Et au fond, voilà, ça me parle. Mais il y a quand même des choses.
Parler, c'était très émouvant.
Voilà.
Que vous écrivez
ça. Et il y a quand même des choses.
Il faut penser à ce qu'est la vie quand même d'un éléphant entravé.
Eh ben oui, d'un éléphant tout toute seule, d'un hippopotame, qui est quand même un animal semi-aquatique. Bon, alors évidemment, c'est des sujets compliqués, parce que les êtres qui travaillent dans ces domaines, c'est de génération en génération, il y a tout leur cœur, il y a tout leur passion, leur identité.
Il faut qu'il y ait un dialogue avec Lincoln, bien évidemment.
Quand Lincoln avait proposé, alors ça n'a pas marché, puis comme vous le savez, il a été assassiné, mais quand il avait proposé en 1862, eh bien... cette loi d'émancipation avec une compensation et un délai, 37 ans, aux esclavagistes du Sud qui seraient d'accord pour lâcher l'esclavage. C'était très intéressant. Et moi, je me suis dit, bon, Lincoln avait cette générosité et il voulait pas stigmatiser les esclavagistes. Il n'avait pas la tyrannie du bien. Il y avait cette hauteur de vue, je l'admire profondément, c'est un grand dépressif. Je connais un petit peu la dépression, et c'est une traversée. Hein. Et c'est cette traversée de l'impossible qui permet, comme dans Ézéchiel, vous avez le retour des ossements desséchés à la vie, c'est un passage du néant à la vie, c'est quoi ? Ben c'est quand on arrive justement dans la difficulté à sortir et à ouvrir un horizon d'espérance. Et j'espère encore une fois que dans quelques jours, neuf, la France sortira de cette espèce de néant et de ressentiment pour, évidemment, donner la voix à Emmanuel Macron et le pousser, faire exercer sur lui une petite pression pour, évidemment, arriver à des sujets plus porteurs que dans son programme actuel, en tout cas sur l'écologie et la cause animale. Mais les choses, je crois, sont là. Et pour revenir à la question du manifeste et du rôle d'un philosophe, je dois écrire demain un article pour Die Zeit, je n'ai pas encore commencé, donc sur cette question-là, du rôle des intellectuels en France, etc.
Mais je crois que vous vivez, il faut le dire, en ce moment, en Allemagne.
Eh bien, qu'est-ce qu'on peut apporter, nous, qui faisons des livres, qui ne savons pas faire grand-chose d'autre, enseigner, tout ça. Je crois, c'est arriver à saisir les mouvements qui existent dans la société pour leur donner une orientation, une cohérence, une structuration, et les faire sortir des simples polémiques et des caricatures. Et parce que c'est ça, je crois, et il n'y a pas de maître émancipateur. On n'invente pas comme ça les choses, on les saisit. Moi, je me pense comme philosophe très proche des artistes. J'en ai la sensibilité, l'inquiétude, beaucoup l'inquiétude. Et je pense que c'est ça qu'il faut saisir, et les concepts sont comme des gros cailloux qu'on pose pour orienter et faire éventuellement quelques propositions. Et dans le manifeste animaliste, j'avais fait des propositions, un peu comme on fait pour un think tank, ça m'arrive un petit peu en Allemagne en ce moment, où on extrait de sa pensée certains résultats. Alors bon, c'est parfois bon, pour donner justement une épaisseur aux décisions, mais je crois que le rôle des philosophes, c'est ça. C'est pas de se mettre en avant, c'est pas seulement de dénoncer des choses, des analyses. On n'est pas bon dans les analyses. Il faut laisser ça aux sociologues, chacun son métier, ou aux politistes. Mais de penser ce qui traverse une société en profondeur, ces mouvements de fond, qui parfois ne sont pas visibles et qui sont éclipsés par les bruits des haut-parleurs et par la confusion, mais qui donneront lieu à quelque chose et qu'on peut orienter, en ayant toujours soin de l'impact de sa prise de parole publique sur les personnes.
Elisabeth de Fontenay, sur France Culture, c'était en 2008 et la date a son importance.
De plus en plus, nous allons comprendre, c'est une évolution inévitable, que les problèmes liés à l'élevage des animaux de rente, des animaux de ferme, ou les problèmes liés à l'expérimentation animale, et en particulier toute l'ingénierie génétique, font que le destin des animaux est tissé à notre destin. Et ça, nous le comprenons avec la contagion interspécifique, que nous tombons malades gravement de maladies contractées à partir d'animaux. On peut dire aussi que dans quelques temps, on nous greffera des cœurs de porc. Donc la question est politique, parce que on ne peut plus dissocier vraiment ce qu'on fait aux vaches et ce qu'on fait aux femmes. Et on retrouve cette intrication dans tous les domaines.
C'est important ce qu'elle dit, Elisabeth de Fontenay. Alors, j'ai bien dit, c'était en 2008, c'est-à-dire qu'on a greffé depuis un cœur de porc à un homme qui n'a pas vécu, qui a qui a survécu un temps, mais qui est mort. Mais c'est pour ça que je disais, c'était en 2008. Mais c'est très intéressant ce qu'elle dit, parce que en plus, elle est reconnue en tant que philosophe à la fois pour ses travaux sur la question juive et sur la cause animale. Donc, quand elle parle, par exemple, des vaches et des femmes, il y a évidemment un rapport au sexisme, il y a un rapport au racisme. Donc, ça revient aussi, Corinne Pelluchon, à ce que vous disiez, tout à l'heure sur la
question de domination. Oui, et puis bon, elle souligne aussi les contagions interspécifiques, les zoonoses, la pandémie, on en sort.
La pandémie, exactement.
One health, hein, humains et animaux, bon. Mais effectivement, alors la question, de ce lien entre le rapport aux femmes, violence envers les femmes, violence envers les bêtes, a été pointée par l'écoféminisme. Hein, il y a des points communs. Cette domination, cette violence, bien sûr, et aussi la constitution sociale de l'image de la virilité. Bon, la corrida, c'est évident. La corrida, c'est quand même une construction sociale de l'homme, héros, qui va vaincre la bête. Une bête qui est pourtant un herbivore, supplicié. Mais je crois que toutes ces constructions sociales, il faut les déconstruire, et ça se déconstruit pas facilement, parce qu'encore une fois, tout ce qui touche l'identité, notamment dans des périodes d'effondrement un peu des repères, les gens s'accrochent à leur identité, on peut pas leur en vouloir. Mais il est évident que le féminisme, l'écoféminisme, toutes les questions que nous traitons ici sont des questions du présent et de l'avenir, et qui attestent une révolution anthropologique dans la manière dont l'humain se pense, dans le rapport à l'autre, à la nature. Et moi, je crois que les femmes ont effectivement des choses à dire, à condition justement qu'elle peut être, je vais reprendre un mot de la regrettée Anne Dufour-Mantel, qu'elle ait la puissance de la douceur.
Psychanalyste.
La puissance de la douceur.
Ouais.
C'est-à-dire, non pas la faiblesse, mais, alors moi, en ancienne chrétienne, peut-être encore chrétienne, je parlerai évidemment de la faillibilité, la conscience de sa faillibilité, qui est la seule manière, peut-être, de ne pas avoir la tyrannie du bien, mais la conscience de sa petitesse, mais aussi la puissance de la douceur, qui a quelque chose d'un petit peu anarchique, un peu une manière de lutter, mais sans seulement dénoncer et pointer du doigt l'impureté de l'autre pour mettre en avant sa propre pureté.
En la faisant douceur, des choses, simplement la puissance, parce qu'on peut faire des choses.
Et voilà. Et puis la puissance, c'est-à-dire Marthe, là, le faire. Et pas seulement le pouvoir. Potentia, potestas. Les Spinoza distingue bien là ce qui est de l'ordre de la puissance d'agir, de la capacité d'agir, qu'on perd mais qu'il s'agit de retrouver, et qui suppose sans doute l'estime de soi, pas facile, mais et là le pouvoir, qui est quand même un pouvoir sûr.
La Chouette, tiens donc, chantée par Lonely Drifter Karen.
There's a star outside my window, I can see it clearly shine. Je ne trouve pas mon ami, la Chouette se joue de la nuit. There's an owl in the woods, I can hear it moan low. Je ne trouve pas mon ami, la Chouette s'est évanouie. Roll, rock around you, oh ho. Roll, rock around you, oh ho. Can't escape destiny, dear dum dear dum dear dee. Can't escape destiny, dear dum dear dum dear dee. Can't escape. Chouette s'est évanouie. Roll, rock around.
Patricia Martin sur France Inter.
Corinne Peluchon, on l'a bien compris, il faut regarder les choses telles qu'elles sont. Il faut prendre conscience, évidemment, de la réalité pour ensuite pouvoir faire des propositions concrètes. Donc c'est une révolution des mentalités à laquelle vous nous appelez, qui ne peut se faire que progressivement. C'est très douloureux, au fond, de voir les choses en face, de voir la souffrance animale en face.
Ah oui. Et puis il y a plein de mécanismes psychologiques bien connus, comme le délit, la scission entre sa sensibilité et sa raison, la dissonance cognitive, hein, on va manger du cochon en caressant son chat, alors qu'on sait que le cochon est aussi sensible que le chat, mais eh bien, on se dit que le cochon a été fait pour ça, hein, là, on n'aime pas la contradiction, donc on raisonne. Tout cela, c'est des mécanismes psychologiques de défense, pour ne pas trop souffrir. Mais on paye un coût quand on veut pas trop souffrir et quand on réprime ses émotions. Ce coût, c'est l'indifférence morale. C'est une privation de vie. Quand on souffre, bien sûr, par exemple, regarder en face la souffrance animale, c'est vraiment ce que j'appelle traverser le côté du miroir. Parce qu'on revient pas vraiment. On ne revient pas de la même manière. On est toujours un peu avec eux. Je pense que tous les gens qui sont dans la protection animale, et je m'inclurai aussi, ont cette expérience d'un impossible détachement. On est toujours avec eux, même quand on est avec les autres humains. Et dès qu'on voit quelqu'un, même qu'on aime bien manger un sandwich avec du jambon, on souffre pour l'animal. C'est comme ça. Ça ne veut pas dire qu'on a la haine de l'humanité, loin de là. Et puis, les gens, chacun a son rythme. Chacun a des œillères. Hein. Il y a plein de choses qu'on ne voit pas. On a tous des œillères. Mais je crois que, donc, bien sûr, c'est difficile. Mais en même temps, au cœur de cette souffrance, il y a, évidemment, ça demande un certain travail pour ne pas que cette souffrance vous écrase, mais il y a aussi le désir de tout faire, en tout cas de son vivant, de son mieux, pour convaincre d'autres personnes de faire leur bien avec le moins de mal possible pour les animaux. Et aujourd'hui, c'est possible dans la mode, dans l'expérimentation animale, dans l'alimentation. Il faut un peu d'imagination. Bref, l'imagination, c'est pas mal.
D'ailleurs, vous incitez les chefs, ouais, à inventer des plats en cuisine.
Ah bah, je pense bien.
Bah oui.
Là où je suis en Allemagne, moi, ils me font des plats véganes. Mais j'ai l'impression que ça marche bien. Parce que quand c'est bien fait, eh bien, les gens y vont. Hein.
Les canards sont enfermés dans des cages qui sont en train de s'effondrer. Le sol est recouvert, et je suis désolé, je ne trouve pas d'autre mot, recouvert d'une épaisse couche de merde où se trouvent des carcasses de canards décomposées, des asticots. L'odeur est épouvantable. Les cadavres ne sont pas ramassés et sont laissés dans les cages. Il y a autant de canards vivants que de canards morts. Les canards sont dans une souffrance extrême. Ils vont passer toute leur vie et mourir dans cet enfer. Aidez-nous à faire fermer d'urgence et définitivement cet élevage sordide.
Voilà, donc c'était L214, hein, qui visite un élevage, en l'occurrence de canards, pour fabriquer, en quelque sorte, puisqu'on a l'habitude d'appeler le canard à ce moment-là un produit, pour fabriquer du foie gras. Mais il faut bien dire, Corinne Peluchon, même si on n'est pas végane, si on ne va pas jusqu'au bout comme vous, qu'un accord est quand même possible, et ça vous le dites, hein, dans votre manifeste, qu'un accord doit être possible entre les éleveurs et les défenseurs des animaux, entre les responsables d'abattoirs et les défenseurs des animaux, entre les circassiens et les défenseurs des animaux. Tout le monde doit s'y mettre et tout le monde a y gagné.
Bien sûr, nous avons un monde à y gagner. C'est comme ça que je termine le livre. C'est pas seulement ils ont un monde à y gagner comme chez Marx. Non, il y a une chose que je garde de ce que dit Sébastien Rsac de L214, c'est le sordide enfer et aussi le côté sale. Je veux dire que, bon, moi évidemment, le foie gras, je condamne totalement, c'est de la torture en boîte. Mais c'est condamné c'est interdit dans certains États des États-Unis, etc. Mais là, on arrive à l'extrême de l'extrême. C'est-à-dire autant de canards morts que de canards vivants. C'est-à-dire que, il y a aussi là-dedans jusqu'où on va, jusqu'où on est prêt à aller, et même sur le plan esthétique, si vous voulez. Je veux dire que, est-ce qu'une humanité qui accepte cette aberration, cette merde, cette puanteur de laisser des animaux morts et vivants, des asticots, est-ce qu'elle peut prononcer le mot dignité? Non. La question, la réponse, elle est non. Donc, même, vous voyez, même moi je suis pour l'abolition du foie gras, mais même si on acceptait encore ce produit, aller jusque-là, Aller dans ces conditions-là, c'est pas possible. Il faut le montrer et le laisser, ce n'est pas possible. Et là, les pouvoirs publics ne peuvent pas laisser en état ces choses. On peut pas tolérer que des élevages comme ça existent.
Donc il faut encadrer.
Oui, mais de toute façon, là, il y a eu justement plusieurs candidats qui le disaient, les fins des cages. Il y a eu une campagne menée au niveau européen par Eurogroupe for Animals, qui regroupe des, au niveau du Parlement européen les associations de protection animale dans les pays européens. Et CIWF, les anglo-saxons et les français ont mené ce travail-là sur la fin des cages. C'est possible et c'est souhaitable. Puis de toute façon, pour des raisons écologiques de santé, l'OMS le dit très bien, et de soutenabilité, si j'ose dire, de notre modèle de développement, une réduction drastique des produits animaliers est essentielle. Donc voilà, et chercher la démocratie, la politique par rapport à l'éthique, c'est qu'en politique, il faut, c'est difficile, trouver des accords malgré nos différences, notre conflictualité. Et donc, il faut débattre, il faut négocier. Voilà, l'éthique, on peut être pur dans sa cuisine. Mais quand on fait la politique, eh bien, on est obligé, et c'est la grandeur de la démocratie, sa fragilité, mais aussi sa force, ou son instabilité, sa force. Il faut arriver à négocier avec des rapports de force, mais il y a aussi des possibilités d'arriver à des accords. Et il est clair que, dans l'immédiat, la fin de l'élevage intensif, ça peut être un gagnant-gagnant, à condition d'avoir un volontarisme politique, à condition de faire de l'agriculture, de l'élevage ou de l'alimentation, des notions clés d'un programme politique qui serait vraiment un programme pour aujourd'hui et demain.
Et l'Union européenne, puisque vous parliez de l'Europe à l'instant, Corinne Pelluchon, l'Union européenne, elle peut être là aussi, elle peut être un marchepied pour des politiques plus, peut-être plus audacieuses.
Ah ben elle est, de toute façon, elle a inscrit la condition animale au cœur. Voilà. La Commission européenne a fait beaucoup de choses. D'ailleurs, par rapport à la chasse, la France est un peu a été montrée du doigt. Mais il y a un livre, justement, L'Europe des animaux, publié il y a quelques années par Christophe Marie de la Fondation Bardot et le député, excusez-moi, j'oublie son nom alors qu'il est remarquable.
Ce
livre, et je m'excuse, qu'il est vraiment remarquable sur les animaux, député européen. Eh bien, ce livre-là fait le point sur ce qui est possible au niveau européen, ce qui n'est pas encore fait, et comment, en quel sens l'Europe peut être un levier. De manière générale, l'Europe était le niveau auquel on peut arriver à réorienter les aides pour les agriculteurs, parce qu'évidemment, bon, il faut pas... La question d'avancer sur le côté du versant animal, le bien-être animal, va aller de pair avec une réflexion sur la justice sociale et les conditions de travail des personnes et leur capacité à vivre de leur travail.
Un autre monde, un autre modèle où on donnera une chance de développement, de reconstruction sociale, politique et spirituelle, ça vous le montrez bien aussi dans ce manifeste. Et le rôle des médias n'est pas négligeable non plus. Parce que quelquefois, vous pointez, on a un peu tendance à avoir des discours extrêmes, à monter ça dans les médias. Au contraire, non. Il faut pouvoir vous exprimer comme vous l'avez fait aujourd'hui pendant un moment.
Oui, tout à fait. C'est-à-dire que les médias, je crois qu'aujourd'hui, ils ne sont pas là seulement pour orchestrer la pluralité, la conflictualité, ils sont aussi là pour développer, être des médiateurs entre les gens qui réparent sans bruit le monde, ça et là, parce qu'il y a des agriculteurs, des éleveurs qui font plein de choses, et l'opinion, mais aussi les intellectuels, entre guillemets, l'opinion.
Merci beaucoup, Corinne Pelluchon, manifeste animaliste, politiser la cause animale. Il s'agit donc d'une nouvelle édition, avec une postface inédite, et c'est publié chez Rivage Poche, dans la collection, donc la petite bibliothèque. Merci beaucoup à vous. La semaine prochaine, Merci. Nous parlerons de Bergson, en compagnie d'Emmanuel Kessler.